France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Et ce matin, une émission consacrée au Nutri-Score. Le Nutri-Score, ce système d'étiquetage nutritionnel de plus en plus présent sur les emballages de vos aliments, apparu en 2017 et mis au point par le Programme National Nutrition Santé, le Nutri-Score vient de changer, l'occasion d'un coup de projecteur sur la manière de classer les aliments de A à E, du vert au rouge, du très bon au moins bon sur le plan de la santé, avec un objectif, délivrer une information claire aux consommateurs sur des bases scientifiques. Nous verrons ce que vaut ce nouveau Nutri-Score et quelles sont les actions de certains lobbies agroalimentaires pour lui faire la peau. Avec nous ce matin, notamment le père du Nutri-Score, le professeur Serge Erkberg. Et vous, faites-vous confiance au Nutri-Score? Vous est-il utile quand vous faites vos courses? 01 45 24 7000, sans oublier l'appli Radio France, où vous pouvez laisser messages et notes vocales. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Rébéi.
Bon, si je puis dire, alors je vous demande maintenant de formuler un jugement sur ces produits.
Mais c'est infect! C'est absolument innommable! Ils ont voulu m'empoisonner! C'est pas de la nourriture!
Exact! Ces produits viennent de chez vous et des millions de personnes les consomment chaque jour!
Impossible, monsieur, absolument impossible!
On les a pris dans votre usine il n'y a pas une heure!
C'est hein. Faux!
C'est vrai! Et d'ailleurs, vous êtes au courant!
Les plats industriels de chez Tricatel dans l'aile ou la cuisse qui auraient été classés Z si le Nutri-Score avait existé en 1976. Bonjour professeur Serge Erkberg.
Bonjour.
Vous êtes nutritionniste et épidémiologiste, professeur à l'université Sorbonne Paris-Nord. Vous avez piloté plusieurs grandes études épidémiologiques comme SuiviMax ou NutriNet Santé et vous avez présidé le Programme National Nutrition Santé. Vous êtes l'un des pères, peut-être le père du Nutri-Score. Dans votre livre « Mange et tais-toi » publié en 2022, vous décriviez les manœuvres de l'industrie alimentaire pour que le Nutri-Score ne voie pas le jour. Et je rappelle que l'intégralité des droits était reversée à la Maison d'Izieux et au Mémorial de la Shoah. Bonjour docteur Jacques Fricker.
Bonjour.
Vous êtes médecin nutritionniste, vous avez été chercheur en nutrition humaine à l'INSERM, praticien à l'hôpital Bichat à Paris et vous publiez chez Odile Jacob « Manger intelligent, éloge de l'omnivore » conseillé par Nicolas Demorand récemment dans 180 secondes. Bonjour Pierre Slamiche.
Bonjour.
Vous êtes directeur produit d'Open Food Facts. Vous avez cofondé cette association. Rappelez-nous en quelques mots quelle est la mission de cette association qui collabore notamment avec Santé Publique France.
La raison pour laquelle on a créé Open Food Facts, c'est qu'on était en 2012 dans un monde sans information nutritionnelle simple, sans Nutri-Score. Et donc l'idée, c'est avec une appli citoyenne, on peut se réinformer sur les produits qu'on mange au quotidien et contribuer à rendre le système alimentaire plus transparent et aider aussi les scientifiques justement en générant les données sur ce système alimentaire.
Bonjour Boris Ancel. Professeur Ancel, médecin nutritionniste et endocrinologue. On vous retrouve tout à l'heure dans votre chronique Allô Docteur. Alors avant d'évoquer les nouveautés du Nutri-Score, j'aimerais que vous nous rappeliez les grands principes de cet étiquetage nutritionnel, professeur Serge Erkberg. Pour le dire vite, c'est un système qui classe les aliments de A à E, du vert au rouge, du très bon au moins bon sur le plan de la santé.
Oui, en fin de compte, Nutri-Score ne fait que traduire les données qui sont sur ce tableau en face arrière des emballages des aliments qui reprend les valeurs nutritionnelles, mais qui sont incompréhensibles et illisibles. Et donc, en attribuant des points négatifs à des éléments qui ne sont pas favorables à la santé, les sucres, les graisses saturées, le sel, les calories, des points positifs s'il y a des fibres, des protéines, des fruits et légumes ou des légumineuses, on obtient une note qui a été bien sûr validée scientifiquement. Et à partir de cette note, on peut classer en 5 catégories les produits qui permettent d'un simple coup d'œil au consommateur de juger de la qualité nutritionnelle globale des aliments et s'il le souhaite, donc pouvoir comparer les aliments entre eux pour orienter ses choix vers des aliments plus favorables à sa santé.
Quels sont les produits alimentaires exclus du Nutri-Score?
Alors en fait, ce sont aujourd'hui, Nutri-Score est uniquement limité aux produits qui sont pré-emballés. Il va d'ailleurs être élargi aux produits en vrac, aux produits bruts, ce qui est une bonne chose. Et puis, certains produits, le miel ou les boissons alcoolisées, les produits également dédiés aux enfants de moins de 3 ans sont exclus, pour des problèmes de réglementation européenne d'ailleurs, du système Nutri-Score.
Docteur Jacques Fricker, la nutrition, c'est un domaine où il semble parfois régner une forme de cacophonie. Vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression qu'il n'existe pas de consensus scientifique dans cette discipline.
Je dirais qu'il y a un consensus scientifique, mais il y a des non-scientifiques qui exploitent certaines données et qui privilégient uniquement un élément. En fait, il y a plusieurs éléments à prendre en compte dans la nutrition et pour bien manger. Et ces éléments, ce sont, comme l'a rappelé Serge, les protéines végétales, comme les légumes secs, les pâtes, le riz notamment complet, comme le pain. Les fruits et légumes qui ont un rôle majeur. D'ailleurs, le PNNS, la première campagne, c'était manger au moins 5 fruits et légumes. Et ça, c'est très important. C'est vraiment peut-être le message pour moi le plus important. En sachant qu'il faut expliquer après qu'est-ce que c'est qu'un fruit, qu'est-ce que c'est qu'un légume. Ce que j'essaie de faire dans mon livre « Manger intelligent » chez Odile Jacob. C'est vrai qu'il y a une cacophonie par rapport au fait de manger vegan, de manger végétarien, de manger méditerranéen. Et en fait, dans ce livre, j'ai essayé de montrer que, à travers à la fois l'évolution humaine et les recherches scientifiques, la meilleure façon de manger, c'est sans doute le régime méditerranéen, avec un régime qui est omnivore, où toutes les classes d'aliments sont représentées. Mais actuellement, on est omnivore aussi, la majorité d'entre nous, mais on mange trop d'aliments d'origine animale et pas assez d'origine végétale. L'objectif étant donc de manger plus d'aliments d'origine végétale, que ce soit les légumes secs, ce qu'on appelle les féculents, les céréales, le pain, et les fruits et légumes, et de garder des volailles, du poisson, des œufs, en choisissant les meilleurs, et ça on pourra en reparler, notamment les poissons gras par exemple, même en conserve, mais en gardant quand même un petit peu, moins que ce qu'on fait généralement, mais en gardant un petit peu, et en privilégiant certaines huiles comme olive, colza ou noix par exemple.
Et pour faire cet éloge de l'omnivore, vous vous basez, de l'omnivore éclairé, vous basez sur des données scientifiques solides, robustes. Et pourtant on a l'impression, professeur Scherzberg, qu'il existe une cacophonie nutritionnelle, qu'il existe plusieurs chapelles, et que voilà, on est dans le flou, dans le doute permanent concernant la nutrition humaine.
Alors, je pense, comme l'a rappelé Jacques Fricker, il y a maintenant un vrai consensus scientifique. Il y a des recommandations nutritionnelles qui sont élaborées sur la base de consensus scientifique par des experts indépendants. Et en effet, cette cacophonie vient plus du bruit ambiant, puisque la nutrition, l'alimentation, ça touche à l'émotionnel, à l'affectif, au social, au culturel. Et il y a beaucoup de bruit ambiant. Et c'est surtout plus au niveau d'influenceurs, de gourous, de lobbies qui parfois ont des intérêts à déstabiliser les recommandations officielles qu'on a parfois cette sensation qu'il n'y a pas de consensus. Mais scientifiquement, oui, il y a maintenant des recommandations qui sont vraiment basées sur la science et qui sont reconnues, ce sont à peu près les mêmes d'ailleurs dans tous les pays européens.
Professeur Boris Ancel.
Oui, pour prolonger ce que dit Serge Herzberg, en fait, on a l'impression que la science dit tout et son contraire, mais ce n'est pas vrai. La science, quand on regarde la synthèse objective des données, elle évolue, mais relativement peu en nutrition. Ce qui change, c'est la manière dont les études sont relayées par des moyens de communication qui vont à toute vitesse. Et donc, on a l'impression que ça change, parce que oui, les études évoluent, il y a des petites nouveautés, il y a des contradictions. Et alors, si vous regardez, si vous écoutez, si vous lisez ce qui se passe à droite à gauche, alors on vous dit « la dernière étude dit que ». Et on en fait une vérité. En fait, la science de la nutrition, comme toute science, elle doit intégrer l'ensemble des données, pas la dernière étude. Et quand vous entendez quelqu'un qui vous dit « Ah, la dernière étude dit qu'il faut faire comme ça », vous pouvez fermer votre poste, ou arrêter de lire, ou arrêter de regarder. Il faut revenir sur la synthèse qui prend en compte les nouveautés.
Serge Herzberg.
Oui, tout à fait. Vraiment, le consensus scientifique, c'est mettre ensemble des experts qui vont regarder l'ensemble de la littérature. Et c'est pas une seule étude, c'est pas une hirondelle qui fait le printemps. Il faut qu'il y ait des études à la fois sur des populations, des études qui portent sur des malades, des études expérimentales. Et c'est sur ces bases, avec la robustesse évaluée pour chacune de ces études, qu'on arrive à un consensus. Alors c'est vrai que ce consensus, il va évoluer au travers du temps parce que les connaissances scientifiques évoluent. Mais c'est vrai que maintenant, il y a des méthodologies extrêmement rigoureuses et que cette fameuse cacophonie qu'on avait il y a 20 ou 30 ans, aujourd'hui, elle est plus liée à ce bruit ambiant qu'il y a autour que des scientifiques eux-mêmes.
Docteur Jacques Fricker.
Oui, un exemple, pour revenir sur ce qu'a dit Boris Ancel, c'est le vinaigre de cidre. On a sorti, il y a 5-6 mois ou un an, le vinaigre de cidre, c'est très bien parce que ça baisse l'index glycémique des aliments, ce qui est vrai. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que depuis 20 ans ou 25 ans, On sait que les vinaigres de vin, non pas les vinaigres balsamiques, mais les vinaigres de vin à la française, un peu acide, ralentit également, enfin réduit la dynamique glycémique. Donc on met effectivement en exergue une seule étude, et ce qui est important, c'est la synthèse, c'est ce que j'essaie de faire dans ce livre, en sachant qu'après, il faut adapter ce consensus scientifique à chaque patient ou à chaque personne. Je dis patient parce que j'ai des patients en tant que médecin. Et il faut donc arriver à montrer à chacun, en fonction de ses goûts, de ses sensibilités, comment faire. Si quelqu'un est vegan ou végétarien, même si ce n'est pas l'idéal, je lui montre comment manger au mieux tout en respectant ses croyances et sa sensibilité.
Votre regard, Pierre Slamiche.
Nous, on essaye en fait, dans l'application Open Food Fact, de calculer des scores et d'afficher des informations qui font consensus scientifiquement. Donc typiquement, le Nutri-Score, dont la méthodologie est ouverte, les données aussi qu'on collecte grâce aux citoyens et aux utilisateurs sont également ouvertes. Le groupe Nova, donc sur l'ultra-transformation, et puis le Green Score sur l'impact environnemental. Et on va aussi afficher les messages du PNNS, comme le disait le docteur Fricker, par exemple sur les fruits et légumes, sur les noix, etc. Et donc on se limite à ça, on essaye de ne pas faire dans le sens sensationnaliste.
Le PNNS, je le rappelle, c'est le Programme National Nutrition Santé qui pilote le Nutri-Score. Le PNNS est né en 2001 et Serge Herberg, il a dû subir les assauts du lobbying agroalimentaire. Hein, ce PNNS, lobbying agroalimentaire représenté par l'ANIA, vous l'expliquez dans votre livre, l'Association Nationale des Industries Agroalimentaires, qui rassemble plus de 19 000 entreprises réparties sur tout le territoire national, avec un chiffre d'affaires de 230 milliards d'euros par an et qui rassemble environ 510 000 salariés. Robuste lobbying.
Oui, bien sûr. Si vous voyez, dès qu'on fait des recommandations nutritionnelles, justement sur des bases scientifiques, elles sont perçues par certains opérateurs économiques comme allant à l'encontre de leurs intérêts. Donc, malheureusement, les lobbies ont l'habitude de s'opposer aux mesures de santé publique qu'ils considèrent comme dérangeantes pour leurs intérêts et vont développer, et ont développé notamment contre le PNNS et contre le Nutri-Score, entre autres, des stratégies pour essayer de bloquer les recommandations, les messages, les outils, les campagnes.
Et parmi les critiques récurrentes hein, contre le Programme National Nutrition Santé et contre le Nutri-Score, hygiéniste, anxiogène, culpabilisant, tyrannique, voire dictatoriaux, bref, le PNNS serait des empêcheurs de jouir de la nourriture en paix.
Oui, ce qui est à la fois complètement faux, puisque le PNNS, au contraire, respecte aussi les traditions, les habitudes, le côté plaisir de l'alimentation. D'ailleurs, il n'y a pas opposition entre santé et plaisir. Manger des fruits et des légumes, ça peut être c'est un vrai plaisir. Donc, il n'y a pas d'opposition. Et puis, c'est aussi une manipulation pour laisser donner l'impression que ces recommandations nutritionnelles, c'est l'État qui vient contrôler ce qu'il y a dans votre assiette. Et donc, les scientifiques qui les portent sont des liberticides qui veulent toucher aux libertés. Donc, c'est absurde, faux, mais c'est des stratégies que les lobbies utilisent, aussi bien pour le tabac, pour l'alcool ou autre.
Jacques Fricker.
Oui, alors ce qu'il faut voir également, effectivement, ce n'est pas du tout culpabilisant, et il y a des associations à faire avec des aliments qui auraient un mauvais Nutri-Score et d'autres, et c'est ce que fait également le PNNS, que j'essaie également de montrer dans mon livre. Si vous prenez le Roquefort, qui ont un score plutôt mauvais, je crois que c'est eux, oui, parce qu'il est très salé et gras, mais si vous prenez un peu de Roquefort avec un bon pain au levain, bon pain aux céréales, et une belle salade verte, vous allez avoir une association qui sera excellente. Pareil pour le parmesan avec des pâtes et des aubergines, par exemple. Donc il y a vraiment cette association qui est fondamentale.
Et vous nous direz tout à l'heure, Dr Fricker, si vous recommandez à vos patients de faire leurs courses en se basant sur le Nutri-Score. Pierre Slamiche, vous vouliez apporter une précision ?
Oui, sur le Nutri-Score, il faut rappeler qu'il n'est toujours pas obligatoire.
Oui.
Donc si on le voit dans les rayonnages, c'est parce que les consommateurs l'ont demandé à partir de 2015 et que les industriels ont fini par se rendre compte que c'était avantageux de jouer le jeu de la transparence en les affichant sur les packs.
Professeur Boris Ancel, au menu de votre chronique, quoi de neuf docteur, vers 11h20.
Alors moi je répondrai à une question qu'à peu près tout le monde s'est posée une fois dans sa vie ou va se la poser. Quand faut-il suspecter qu'on prend du poids pour des raisons hormonales ?
France Inter.
Alors je vais prendre un menu Big Boss,
oui,
et un Big Five. C'est 5 viandes, 5 fromages, c'est ça ?
Grand bien vous fasse.
C'est ça. Les poulets bœufs, porc, pour canard pour les 5 viandes, reblochon, gouda, coulommiers, brie, roquefort pour les 5 fromages.
Ali Rébi.
Ouais, très bien.
Du vert à l'orange foncé en passant par le jaune, depuis quelques années, le Nutri-Score est un étiquetage destiné à informer le consommateur sur la qualité nutritionnelle des produits transformés. Son logo se décline en 5 lettres et 5 couleurs.
Qui veut la peau du Nutri-Score ? C'est l'occasion ce matin de rappeler comment il est calculé, quelles sont les nouveautés. Avec nous, le professeur Serge Herkberg, le père du Nutri-Score, le docteur Jacques Fricker et Pierre Slamich de l'association Open Food Facts. Avec nous également Boris Ancel. Alors, comment fonctionne l'application Open Food Facts ? Est-ce que vous prenez en compte le Nutri-Score et quels sont les autres éléments que vous prenez en compte ? Vous avez parlé tout à l'heure de Nova. Expliquez peut-être ce qu'est cet indicateur. Expliquez-nous comment votre appli fonctionne.
Alors, c'est très simple. En fait, il suffit tout simplement de scanner le code barre du produit avec l'application mobile et on va avoir un certain nombre d'informations qui sont calculées à partir des données qu'on a pu collecter sur le produit. Donc, on calcule de manière citoyenne le nouveau Nutri-Score, donc la nouvelle formule plus stricte donc sur la qualité nutritionnelle. Le Nova, qui est donc sur l'ultra-transformation des aliments. Donc, c'est quand les aliments subissent un certain nombre de transformations d'ajouts d'additifs qui posent des problèmes de santé. Donc ça, on va aussi calculer ça. Et puis enfin, on calcule l'impact environnemental avec le Green Score, toujours avec une méthodologie transparente pour le consommateur.
À propos de transparence, vous nous avez apporté une bouteille de Yop. Voilà. Expliquez-nous pourquoi vous nous l'avez apporté pour bien comprendre les enjeux du nouveau Nutri-Score.
Alors, on a pu voir dans les médias que Danone se retirait du Nutri-Score parce qu'ils n'étaient pas contents de leur note qui baissait. Donc, du coup, j'ai pris des yaourts à boire. Et donc là, par exemple, j'ai un yaourt à boire noté B. Il faut savoir que dans un yaourt à boire, en fait, la moitié de la hauteur de la bouteille, c'est du sucre. Donc on a l'impression d'un produit un peu santé, mais en fait, y a autant de sucre que dans un soda. Et typiquement, sur la nouvelle formule Nutri-Score, telle qu'on peut la scanner avec l'appli Open Food Fact, on voit que la note passe à D. Donc les industriels ont 2 ans pour se mettre en conformité, mais on a décidé qu'on ne pouvait pas attendre et qu'on allait afficher la nouvelle formule dès maintenant.
Alors rappelons donc que le Nutri-Score, c'est la traduction du tableau de composition nutritionnelle difficile à comprendre en logo synthétique, simple et facile à interpréter. Comment est-il calculé ce Nutri-Score, professeur Serge Herkberg ? Expliquez-nous un petit peu. On va aller sous le capot du Nutri-Score. Expliquez-nous comment ça fonctionne.
Mais écoutez, derrière sa simplicité, il y a beaucoup de science. Il y a un algorithme de calcul qui repose en fait sur la somme donc, des éléments négatifs et des éléments positifs, que j'ai cités tout à l'heure, les calories, les graisses saturées, le sucre, le sel. C'est-à-dire ces éléments qui ont été démontrés scientifiquement comme lorsqu'ils sont consommés en excès, ayant des conséquences sur le risque de maladie, des éléments plutôt positifs, en effet, est-ce qu'il y a des fruits et légumes, des légumineuses, est-ce qu'il y a des fibres et des protéines, des éléments qui sont considérés au contraire comme ayant un effet plutôt protecteur vis-à-vis des maladies chroniques. La somme des deux aboutit à une note. Scientifiquement, il y a eu des études qui ont permis d'attribuer des seuils, 4 seuils, qui définissent donc 5 catégories, qui permettent ensuite de classer l'aliment, donc du vert au rouge, de A à E, et donc de permettre d'avoir vraiment, sur une base scientifique, un élément simple, intuitif, compréhensible par tous. Et derrière Nutri-Score, ça paraît très simple, il y a beaucoup de science aujourd'hui, il y a plus de 150 études qui valident l'intérêt du Nutri-Score en termes de compréhension, d'utilisation, d'impact éventuel sur la santé, avec des études parfois qui portent sur des milliers, des dizaines ou des centaines de milliers de personnes.
Alors Mariem nous écrit ceci, j'ai arrêté de croire au Nutri-Score le jour où les chocs à pic sont passés au A, vert.
Alors, on comprend cette réaction et ça valide pourquoi il faut mettre à jour le Nutri-Score. Lorsque le Nutri-Score a été créé et officialisé en 2017, les chocs à pic étaient classés plutôt C, tout simplement parce qu'elles contenaient 40 grammes de sucre pour 100 grammes de produit. Le fabricant a intelligemment, et c'est plutôt une bonne chose, réduit le taux de sucre et a réussi à passer de C à B, puis en passant de 40 grammes à 30 grammes, puis de 30 grammes à 22 grammes de sucre, en rajoutant plutôt du blé complet qui apportait des fibres, il a réussi à être juste en dessous du seuil qui lui permettait d'être classé A. Donc, c'est bien d'un côté, parce que c'est louable qu'il y ait eu cet effort de réduire le sucre de ce produit, mais malheureusement, il se retrouvait au même niveau que des céréales petit-déjeuner qui ne contenaient pas du tout de sucre, et c'est pour ça que la mise à jour du Nutri-Score, que Pierre Slamich rappelait accessible sur Open Food Facts et qui va rentrer en vigueur, prend en considération cela, à remodifier en pénalisant plus le sucre, et les chocs à pic vont repasser de A à C, ce qui les différencie des céréales qui ne contiennent pas de sucre, mais d'un autre côté, qui permet aussi de les différencier des céréales qui contiennent plus de sucre et qui n'ont pas fait l'effort de réduire la teneur en sucre.
Et quelles sont les modifications majeures avec ce nouveau Nutri-Score ? Vous preniez dans l'actuel Nutri-Score en compte le sel, les graisses saturées, le sucre, mais est-ce que vous prenez en compte les édulcorants, les colorants artificiels, etc. ? Qu'est-ce que vous prenez en compte dans le nouveau Nutri-Score ?
Alors, le nouveau Nutri-Score a été d'abord construit par un comité scientifique fait d'experts européens sans lien d'intérêt, et ils ont abouti à proposer des modifications, pénaliser plus le sucre et le sel, ce qui fait que par exemple les céréales petit déjeuner sont plus pénalisées, les yaourts à boire sucrés sont plus pénalisés, les produits prêts à consommer, les pizzas et autres plats composés sont plus pénalisés.
Les édulcorants par exemple sont pris en compte ?
Alors, ils sont pris en compte uniquement dans les boissons, c'est-à-dire que les boissons édulcorées sont pénalisées, ce qui veut dire qu'un soda qui contient des édulcorants ne sera plus classé correctement comme il l'était jusqu'à présent en B, mais plutôt en C, D ou E, selon qu'il contient uniquement des édulcorants ou avec du sucre. La viande de boucherie, c'est-à-dire hors volaille, est plus pénalisée, ce qui va permettre de la discriminer des poissons, notamment donc des poissons gras ou de la volaille. Et les produits céréaliers complets qui contiennent des fibres sont aujourd'hui mieux classés.
Est-ce que vous pouvez répondre, professeur Herberg, à Sylvie qui nous dit « Je trouve que le Nutri-Score ne tient pas assez compte de la grande transformation de certains produits et de l'ajout de conservateurs ?»
Oui, là aussi, c'est une question très pertinente. Mon équipe travaille sur ces problèmes d'ultra-transformation. Sachez que si on n'a pas intégré l'ultra-transformation, les additifs, dans l'algorithme de calcul du Nutri-Score, c'est que ça n'est pas possible. L'OMS ne l'a pas fait, aucun groupe scientifique ne l'a fait, parce que ce sont deux dimensions différentes et complémentaires. Donc, aujourd'hui, ce que l'on propose, c'est de garder le Nutri-Score tel qu'il est, qui est un système qui informe sur la qualité nutritionnelle, mais pas sur les additifs ou l'ultra-transformation, de rajouter éventuellement un bandeau noir autour du Nutri-Score lorsque le produit est ultra-transformé, c'est-à-dire que le consommateur aura accès à la double information. Est-ce que le produit est ultra-transformé plein d'additifs et quelle est sa qualité nutritionnelle ?
Docteur Jean Fricker, auteur de Manger intelligent, éloge de l'omnivore.
Parce que j'aimerais revenir sur les chocs à pic, par exemple, même s'ils ont très peu de sucre, un des problèmes essentiels, me semble-t-il, c'est qu'ils sont croustillants, qu'ils ont été transformés par l'industrie agroalimentaire, ce qui change la structure de l'amidon, qui va être très vite assimilé, donc index glycémique élevé, ce qui est favorable ni pour la santé, ni pour le diabète, ni vis-à-vis du diabète, ni pour le poids. Donc ça va être pris en compte avec le carré noir qui entourera le score.
Alors ça prendra en considération donc l'ultra-transformation, mais disons, toutes les céréales petit-déjeuner sont...
Sauf les flocons d'avoine.
Sauf les flocons d'avoine, donc...
qui, elles, ne le sont pas.
Ne le sont pas. Mais toutes les céréales petit-déjeuner, en grande majorité du moins, sont ultra-transformées. Ce cas, c'est que Nutri-Score permet de comparer, de voir qu'il y en a qui sont de meilleure qualité nutritionnelle que d'autres, et que certaines, comme les flocons d'avoine, sont classées A et ne sont pas ultra-transformées, sont donc à favoriser.
Professeur Boris Ancel.
C'est vrai qu'un des éléments qui revient souvent dans la population et chez nos patients, c'est cette incompréhension de ne pas voir le côté industriel et aussi le côté pesticide dans Nutri-Score. Et je crois que le mot-clé, c'est ce que Serge Herzberg a dit, ce sont des dimensions différentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne sait pas mettre dans un même score des chiffres et des lettres, si vous voulez. C'est ce que je veux dire par là, vous ne pouvez pas faire un calcul en mettant des chiffres et des lettres. Si je vous dis combien ça fait A plus 3, bah vous dites je ne sais pas. Eh bien, on ne sait pas faire aujourd'hui un seul score pour ultra-transformation et la composition nutritionnelle et la présence de pesticides. Donc évidemment, ce n'est pas parfait. Moi, ce que je dis à mes patients, il y a même parfois des erreurs. Il faut le dire aussi, je pense que c'est important. Mais globalement, ce qui est intéressant, c'est que quand on nous demande qu'est-ce qu'il faut choisir entre ça et ça, on peut dire, comme on ne va pas vous faire un cours de nutrition et vous demander de devenir nutritionniste, avec les données scientifiques dont on dispose, on peut vous proposer d'utiliser ce Nutri-Score.
Oui, tout à fait. Il faut vraiment voir en plusieurs dimensions donc, les aliments. D'un côté, il y a la qualité nutritionnelle, et c'est déjà un élément important. Nutri-Score a été validé. Des études ont montré que manger des aliments bien classés sur l'échelle du Nutri-Score, même sans prendre en considération l'ultra-transformation, les additifs ou les pesticides, réduisait le risque de maladies aussi importantes que le surpoids, l'obésité, que certains cancers, des maladies cardiovasculaires. Par contre, il faut donner l'ensemble de ces informations. On ne peut pas les donner sous forme d'un seul score, mais on peut les donner graphiquement avec à la fois le Nutri-Score, l'information sur l'ultra-transformation et le logo qui existe déjà sur l'agriculture biologique pour les pesticides.
Pierre Slamiche.
Oui, en tant que consommateur, ça peut parfois être perturbant. Et il y a parfois des produits qui sont, par exemple, très mauvais pour la planète et bons pour la santé. Donc, du coup, pour éviter, pour aller au-delà de ces contradictions, il y a cette dimensionnalité. Typiquement, les produits qui sont ultra transformés ont souvent aussi un mauvais Nutri-Score. Donc ça, c'est le côté rassurant. Les produits qui sont... on a tous intérêt à végétaliser notre alimentation parce que c'est tout ce qui est à base de végétal, si c'est pas ultra transformé, va avoir un impact environnemental plus faible, généralement de meilleurs Nutri-Score. Et souvent, ce n'est pas des produits transformés, c'est des produits bruts.
Docteur Jacques Fricker, le Nutri-Score, c'est un moyen de lutter contre la malbouffe. De nombreuses études scientifiques ont démontré que la malbouffe jouait un rôle dans l'augmentation des maladies dites de civilisation, comme les pathologies cardiovasculaires, certains cancers, le diabète de type 2 ou la maladie d'Alzheimer. Alors, par quel processus la malbouffe favorise-t-elle l'apparition de ces pathologies? C'est l'oxydation et l'inflammation des organes qui sont deux processus à l'origine de ces pathologies?
Alors, il y a en grande partie ces deux processus, effectivement, oxydation et inflammation, mais il y a également des spécificités des spécificités. Par exemple, les oméga-3 interviennent comme antithrombotiques dans les maladies cardiovasculaires en termes de prévention. Les oméga-3, ce sont les poissons gras notamment, comme les sardines, les harengs, les maquereaux, comme également, il y en a également dans les noix, dans l'huile de colza ou dans l'huile de noix, par exemple. Et là, c'est plus spécifiquement, par exemple, sur cette problématique. Mais c'est vrai que l'oxydation et l'inflammation liées à la malbouffe favorisent ces maladies. Et quand on mange sainement, avec des légumes secs, des fruits, des légumes, des volailles plus souvent que la viande rouge, des poissons gras, de l'huile d'olive, de l'huile de colza, on réduit l'oxydation, on réduit l'inflammation, on améliore également l'influx, enfin les communication neuronale, donc ce qui explique également qu'on réduit le risque d'Alzheimer, et on améliore également d'ailleurs le psychisme et les capacités cognitives, les capacités du cerveau, grâce à cette bonne nourriture.
Professeur Serge Arkberg, les liens entre la malbouffe et certaines pathologies, comme on l'a dit, les pathologies cardiovasculaires ou la survenue de certains cancers, ça c'est prouvé scientifiquement, il y a des données robustes qui établissent un lien entre les deux.
Oui, depuis maintenant une trentaine d'années, il y a des centaines d'études, voire des milliers d'études qui sont intéressées à ces problèmes et qui permettent aujourd'hui d'avoir ces fameux consensus scientifiques. Alors, on ne connaît pas toujours parfaitement tous les mécanismes, mais ça n'empêche pas d'aboutir à des recommandations. C'est comme le tabac, on ne sait pas exactement quoi s'agit en termes de risque de cancer du poumon, mais ça n'empêche pas de donner des recommandations sur le fait d'éviter de fumer. Donc, on a aujourd'hui des recommandations qui permettent réellement de réduire le risque de maladie. Donc, on ne va pas solutionner avec l'alimentation tous les problèmes des maladies chroniques, c'est un élément parmi d'autres, mais c'est un élément sur lequel on est capable de jouer.
Soyons clairs, professeur Herberg, c'est pas parce qu'on va acheter des aliments classés A et B qu'on va être en bonne santé, c'est plus complexe que ça.
C'est plus complexe et la communication Nutri-Score est claire. On ne dit pas qu'il ne faut pas consommer de produits DE, simplement s'ils sont classés DE, ça doit nous alerter qu'ils doivent être consommés plutôt en petite quantité, pas trop fréquemment, donc être plutôt raisonnable, mais on ne dit pas qu'il ne faut consommer que du A et du B. Par contre, si on tend vers des aliments mieux classés sur l'échelle du Nutri-Score, là, les travaux scientifiques ont montré qu'on pouvait contribuer à réduire, pas de faire disparaître, mais réduire le risque des maladies chroniques que vous avez évoquées.
Tiens, je vous propose d'écouter le docteur Jonathan Cohen, médecin nutritionniste à Paris, et qui nous a laissé une note vocale sur WhatsApp.
Le vrai danger du Nutri-Score, selon moi, c'est de classer un aliment en bon et en mauvais aliment. On ne peut pas dire qu'un aliment soit bon ou mauvais. On essaiera toujours de le comparer à un autre aliment. Et puis aussi, ça dépend du contexte et des besoins, du contexte dans lequel on va le manger et des besoins de la personne qui va le consommer. Une petite parenthèse que j'aimerais aussi ouvrir, c'est le risque des Nutri-Score de développer des troubles du comportement alimentaire chez certaines personnes qui pourraient être fragiles et qui pourraient se baser uniquement sur la couleur des lettres A, B ou A uniquement, et finalement avoir des régimes restrictifs purs, se limitant uniquement au Nutri-Score A, et donc finalement entraîner des carences. Donc en conclusion, au lieu de catégoriser les aliments en bons et mauvais, il faut plutôt avoir une démarche d'alimentation équilibrée qui est adaptée au moment où on consomme, au consommateur lui-même, aux besoins et surtout du contexte dans lequel le produit est consommé.
Tiens, que répondez-vous à ce médecin nutritionniste Jonathan Cohen, Serge Herberg?
Alors, on peut rassurer ce médecin nutritionniste. Les études montrent bien que les consommateurs ne sont pas stupides. Ils ont bien compris que ça ne classe pas les aliments sains ou malsains, mais que ça permet de comparer les différences de qualité nutritionnelle. Donc, ça n'est absolument pas ni de risque, ni en plus de risque de troubles du comportement alimentaire. Ça, on entend souvent cela, et notamment parfois dans la bouche de certains lobbies qui veulent discréditer Nutri-Score, mais les études ne montrent absolument pas de troubles du comportement alimentaire chez les sujets qui s'intéressent à leur nutrition.
Et en particulier l'orthorexie, cette obsession de toujours manger sain. Professeur Boris Ancel.
Oui, je ne vais pas répondre aussi avec mon expérience. Moi, je dirige un service de prise en charge de l'obésité et dont 50 à 60% des patients ont des troubles du comportement alimentaire. J'ai jamais établi, même dans l'expérience, de relation entre Nutri-Score et les troubles du comportement alimentaire, ce qui confirme encore ce que la science montre. Je crois que ce qui provoque les troubles du comportement alimentaire, c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt cette cacophonie qui fait qu'on n'a plus confiance dans rien. Donc Nutri-Score permet de manger de tout. Bien utilisé, il permet non pas de dire que l'aliment est bon ou mauvais, mais de comparer les aliments entre eux. Et jusqu'à preuve du contraire.
Ouais. C'est important ce que vous dites, Boris Ancel. Une chose très importante concernant le Nutri-Score, il est fait pour comparer des produits dans une même catégorie. Il serait totalement absurde de comparer une pâte à tartiner et un jus de fruits, professeur Herberg.
Absolument, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment utile. Et c'est comme ça qu'on voit que font les consommateurs lorsqu'ils font leurs courses. Ils comparent des aliments qui ont le même usage, la même utilisation. Vous n'hésitez pas entre dire est-ce que je vais prendre des céréales petit-déjeuner ou de l'huile d'olive. Au rayon des céréales petit-déjeuner, vous allez vous poser la question par rapport à d'autres céréales petit-déjeuner ou d'autres produits du petit-déjeuner, le pain complet, les viennoiseries. Et puis si vous choisissez pour assaisonner votre vinaigrette, vous n'allez pas vous dire je vais faire appel à des céréales petit-déjeuner.
Si. Moi, j'ai des choux classiques dans la salade.
Certains peuvent le faire, comme Boris Ancel, mais ce que l'on voit, c'est que le consommateur va hésiter entre huile d'olive, huile de colza, huile de tournesol, huile de maïs, et le Nutri-Score va l'aider à voir celle qui est la plus favorable à sa santé.
Pierre Slamiche.
Par exemple, aussi, sur les alternatives, en plus de ma bouteille de yaourt à boire qui va être D, donc que j'ai rapporté, j'en ai rapporté une deuxième qui n'a pas de Nutri-Score, et si on scanne son code barre, on voit qu'elle comporte beaucoup moins de sucre, elle est notée B.
Donc, y a aussi... Donnez la marque, parce qu'on a donné Lyoplait tout
voilà,
à l'heure.
Voilà, donc c'est un produit de Danone, qui curieusement d'ailleurs se retire du Nutri-Score, et pourtant ils arrivent à faire des produits qui sont notés
qui s'appellent, donnez-le.
iPro. Et du coup, ils arrivent à faire des produits avec peu de sucre. Donc, le consommateur a des outils avec le Nutri-Score pour trouver de meilleures alternatives. Et les producteurs feraient bien d'adopter ce système.
Pierre Slamiche dit une chose très intéressante. Danone va se retirer du Nutri-Score, mais ça a un impact sur les consommateurs. Moi, je sais qu'à titre personnel, si je vais acheter un paquet de biscuits, si je ne vois pas de Nutri-Score sur le paquet de biscuits, je ne vais pas l'acheter. En revanche, pourquoi pas un Nutri-Score C ? Je vais peut-être l'acheter. Mais s'il n'y a pas de Nutri-Score, je me dis, bon, je vais le reposer. Il y a beaucoup de consommateurs qui raisonnent comme ça.
Oui, vous avez tout à fait raison. Et en effet, des études montrent que les consommateurs font plus confiance à un produit qui affiche le Nutri-Score, même s'il est D ou E, que son compétiteur qui ne l'affiche pas. Parce que tout simplement, et c'est vrai d'ailleurs et légitime, si une société n'affiche pas le Nutri-Score, c'est qu'elle a des choses à cacher. Sûrement le Nutri-Score n'est pas bon, mais en plus il n'y a pas ce respect du consommateur qui a droit à la transparence, et c'est un devoir aux industriels de leur fournir. On peut regretter que Danone, qui avait opté pour le Nutri-Score, à partir du moment que les règles du jeu scientifiques ne satisfont plus, abandonne le Nutri-Score. C'est un manque de respect vis-à-vis des consommateurs.
Vous nous direz tout à l'heure quels sont les freins à rendre obligatoire le Nutri-Score. Vous nous expliquerez ça dans le détail. Professeur Herberg, docteur Jacques Fricker.
Oui, en sachant que le Nutri-Score ne doit pas faire oublier un élément essentiel qui est comment composer ses repas. Il y a 36 manières de le faire, il n'y a pas une seule ailleurs. Comment composer ses repas à base d'aliments très différents, comme l'a très bien dit Serge Herberg, certains A, certains B, certains D ou E de temps en temps, mais en moins grande quantité. Mais cet élément de comment composer ce repas tel que l'a conseillé le PNNS initial, tel que je conseille également dans mon livre, c'est vraiment très très important. Il ne faut pas se cantonner uniquement au Nutri-Score, ne pas oublier cela.
Oui, tout à fait. Le Nutri-Score, c'est un outil qui vient compléter les recommandations nutritionnelles de santé publique. Et bien évidemment, il ne faut pas attendre que du Nutri-Score de réussir à régler tous les problèmes alimentaires. Mais par contre, il y a des recommandations officielles. Mais simplement, le Nutri-Score aide à l'intérieur de ces recommandations. Lorsqu'on dit faut consommer par exemple du poisson et du poisson gras deux fois par semaine, ben, le saumon nature, il est classé A. S'il est en conserve avec un petit peu de sel, il est classé B. Saumon fumé, il est classé D parce qu'il y a beaucoup de sel. Et donc, ça permet vraiment au consommateur de se dire, ben, si je prends les poissons gras, attention à ne pas prendre toujours que du saumon fumé, parce que là, je serai en contradiction avec les recommandations de limiter la consommation de sel.
10h43, il est l'heure de retrouver la chronique Quoi de neuf, docteur en sel.
Ah ouais, ça me le fait, là.
Grand bien vous fasse.
Qu'est-ce que j'ai, docteur? Je vous en prie, dites-le-moi.
Ali Rebéi.
J'ai pensé à la tuberculose, moi, c'est ridicule.
Quoi de neuf, docteur?
Sur France Inter.
Boris Ancel, quand faut-il suspecter une prise de poids d'origine hormonale?
Alors, et parfois, il faut le dire, on fait attention, on mange équilibré, on regarde le Nutri-Score, on bouge, et pourtant, les kilos s'installent. Et là, une question revient souvent chez mes patients, mais aussi chez mes proches, hein, tous les jours. Est-ce que ça ne viendrait pas de mes hormones? Et c'est une question légitime. Parce que oui, certaines maladies hormonales peuvent favoriser une prise de poids. On va voir ensemble quand il faut s'inquiéter et quels signes doivent alerter.
Et d'ailleurs, Boris, je vous ai posé la question la semaine dernière, parce que je me suis demandé si, passé la cinquantaine, il y avait des raisons hormonales au fait d'avoir du mal à perdre du poids. Bon, bref, on entend souvent dire que la thyroïde, quand elle est déréglée, fait prendre du poids.
C'est vrai que les journalistes aussi, j'ai oublié de le dire, me posent la question. Alors c'est vrai, Ali. Quand la glande thyroïde, hein, ce petit organe qui est situé à la base du cou, ne produit pas assez d'hormones, le métabolisme ralentit. Le résultat, c'est qu'on dépense moins d'énergie, parfois de façon imperceptible, on ne se rend pas compte, et les kilos s'installent progressivement. On va être plus fatigué, un peu plus frileux, on a la peau un peu sèche, éventuellement les cheveux tombent. Mais attention, il est très rare qu'un problème thyroïdien soit la cause d'une obésité. Et le diagnostic, il est simple. Une fois que l'on traite le problème thyroïdien, tout rentre dans l'ordre. On ne peut pas expliquer une prise de poids importante par la thyroïde seule. Il y a une autre situation, plus rare, mais attention, c'est une situation à ne pas manquer. Le dérèglement de la fabrication de cortisol, c'est aussi une hormone. Et quand il y en a trop, ça s'appelle l'hypercorticisme, un excès de cortisol de façon chronique, une hormone fabriquée par de petites glandes situées au-dessus des reins. Ce trouble peut provoquer une prise de poids, très typique, hein, le visage devient rond, le ventre proéminent parce que la graisse s'accumule particulièrement dans le ventre, les cuisses, elles restent fines. Et parfois, on a des vergetures larges et pourpres qui apparaissent sur le ventre et les cuisses, et même des hématomes, hein, des ecchymoses, sans même se cogner. En fait, le diagnostic est simple, mais à condition d'y penser. J'ai vu des patients traîner ces signes pendant des années sans qu'on pose le diagnostic. Il ne faut pas passer à côté parce que le traitement va tout changer.
Donc dans ces cas-là, les hormones ne suffisent à expliquer la prise de poids?
Elles influencent fortement le poids, oui. Mais même dans ces situations, la prise de poids passe toujours par un déséquilibre entre les apports et les dépenses d'énergie. La maladie hormonale modifie cet équilibre. Dans l'hypothyroïdie, on l'a dit, on dépense moins de calories. Dans l'excès de cortisol, on va avoir plus faim. On mange davantage, souvent même sans se rendre compte. Donc c'est jamais une prise de poids sans apport de calories.
Et la résistance à l'insuline dont on parle souvent?
Alors c'est vrai que cette résistance à l'insuline est souvent associée au surpoids, notamment dans des maladies comme le syndrome des ovaires polykystiques, hein, première cause d'infertilité en France. On lit parfois que la résistance à l'insuline va faire stocker le gras même sans manger. Mais c'est une vision simpliste. C'est souvent, essentiellement, l'inverse qui se passe. C'est la prise de poids qui aggrave la résistance à l'insuline. Alors en pratique, il ne sert à rien de chercher des causes hormonales dans tous les sens, de faire des batteries d'examen. En revanche, il ne faut pas passer à côté des troubles que j'ai mentionnés. Ils sont faciles à diagnostiquer et ils ont des traitements qui aident à rétablir la balance énergétique et donc à limiter la prise de poids.
J'ai une petite question bonus, professeur Ancel, notamment pour ceux qui travaillent la nuit. On parle souvent de deux hormones qui sont sécrétées la nuit, la leptine et la gréline, qui régulent la satiété et le poids. Est-ce que c'est ce qui explique que les travailleurs de nuit, notamment, ou ceux qui travaillent en 3-8 ou en décalé, peuvent prendre du poids? Est-ce qu'il y a une explication hormonale?
On sait que les troubles du sommeil ou que la perturbation de rythme nictéméral, le rythme habituel du fonctionnement, l'horloge biologique, va favoriser des petites perturbations hormonales, gréline, leptine, cortisol également. Mais là encore, ça va passer, et on le ressent bien, par une augmentation de l'impulsivité alimentaire, l'augmentation du grignotage. Donc ce ne sont pas les hormones à elles seules qui font grossir, mais c'est par l'intermédiaire d'un comportement alimentaire qui est un peu moins bon et d'une diminution de l'activité physique. Il faut toujours agir là-dessus.
Tous les épisodes de Quoi Neuf Docteur sont à podcaster sur l'appli Radio France. On y retrouvera toutes les références scientifiques et on peut retrouver également vos vidéos sur les réseaux sociaux de France Inter.
Ali Rebéi.
T'as mangé quoi ce midi ?
Du pain, du saucisson, du fromage et une bière. Des trucs qui ont du goût.
Grand bien vous fasse.
Pas parce qu'il n'y a pas de sel, qu'il n'y a pas de goût. J'ai mis du thym, de la coriandre, du citron.
Peut-être, mais il n'y a pas de sel.
Sur France Inter.
Et on s'intéresse ce matin au Nutri-Score et nous a accueillons Patricia de Bordeaux. Bonjour Patricia.
Oui, bonjour Ali. Oui, c'est un témoignage dont le Nutri-Score, lorsqu'il est sorti, moi je m'en suis beaucoup, je l'ai beaucoup utilisé. Et désormais, depuis quelque temps, voulant faire la chasse au sucre, au sel, je ne m'en sers plus. Je me sers beaucoup plus du tableau de glucides, du sel. Vous savez, le tableau récapitulatif, qui permet de comprendre en quoi l'aliment est composé. Et puis, là aussi, voulant me rapprocher du local le plus possible, j'utilise de plus en plus le vrac, où là, une étiquette, on a tout. On a la composition, sel, glucides, pour des cacahuètes, par exemple, et puis là, savoir d'où ça vient, et pour faire son choix en consommateur. Par contre, votre émission m'a beaucoup appris, parce que j'ignorais que le Nutri-Score prenait en compte maintenant les produits, les additifs,
En tout cas, pas les additifs, c'est-à-dire que c'est sur l'appli Open Food Facts, quand vous scannez un produit, vous allez avoir le Nutri-Score, évidemment, et vous allez avoir la classification Nova, qui est une classification d'origine brésilienne, qui a été créée par le professeur Montero, qui permet de classer les aliments selon leur niveau d'ultra-transformation. Donc ce sont deux outils très complémentaires. Docteur Fricker.
Oui, alors, c'est intéressant ce qu'a dit la personne, le témoignage, c'était les aliments de proximité, notamment pour les fruits et les légumes. Ce qui est très important.
Qui ne sont pas concernés par le Nutri-Score.
Qui vont l'être, d'après ce que j'ai compris, ce qu'a dit Serge, les aliments en vrac. En fait, quand un aliment a du goût, il a en général plus d'éléments protecteurs. Ce qui est important, c'est le niveau du goût au niveau un fruit qui a du goût par rapport à un fruit qui n'en a pas. Je ne parle pas du sel ou du sucre qu'on rajoute. Et donc, ce qui est important, c'est la maturité de l'aliment. Il vaut mieux acheter un aliment qui est cultivé localement, mature, qui aura plus d'éléments protecteurs, qu'un aliment bio qui vient du très très loin, qui en aura beaucoup moins.
Merci beaucoup Patricia de nous avoir appelé. Alors tiens, mettons-nous au clair, Pierre Slamiche, vous êtes le cofondateur d'Open Food Facts. Une question d'Estelle qui nous demande quelle est la différence entre Open Food Facts et Yuka, très en vogue en ce moment.
Alors, Open Food Facts, c'est un effort qu'on a commencé il y a plus de 10 ans maintenant. Mm-hmm. Donc, comme son nom ne l'indique pas, c'est une asso française, donc à but non lucratif, pour faire cette transparence dans les rayons. Donc, on a créé en 2012 une appli mobile. Et la singularité, c'est que comme Wikipédia, on partage tous nos efforts avec le monde entier. Donc, Yuka est une des centaines d'applications qui se sont créées grâce à ce bien commun.
Boris Ancel.
Oui, la question, c'est de savoir est-ce qu'on doit faire plus confiance à Yuka qu'à Open Food Facts. Et là, je vais demander à Serge Herzberg, le créateur d'Open Food Facts, le créateur du Nutri-Score. Et donc, ce n'est pas Open Food Facts de nous répondre.
Alors, très très clairement, d'ailleurs, Santé Publique France, l'Agence nationale de santé publique, soutient Open Food Facts parce que Open Food Facts fournit des données qui sont basées sur la science, des données factuelles, donc permet d'avoir tous les éléments d'information qui ont été cités. Alors, Yuka, c'est une initiative sympathique, mais qui n'intègre pas réellement une dimension scientifique et qui mélange donc ces fameuses dimensions que ni l'OMS, ni aucun groupe de recherche à travers le monde et aucune autorité de santé publique l'a fait, c'est-à-dire moyenner, selon une pondération qu'ils inventent eux-mêmes, donc l'ultra-transformation, la composition nutritionnelle, les pesticides. Donc, c'est pas faux, bien évidemment, mais c'est pas tout à fait exact, et surtout, ça fait perdre la signification de chacune de ces dimensions, c'est pour ça que les scientifiques, qui travaillent d'ailleurs beaucoup avec Open Food Facts, et les autorités de santé publique, soutiennent plutôt Open Food Facts.
Alors, professeur Herzberg, dans Mange et tais-toi, vous expliquiez votre combat face au lobby agroalimentaire. En 2025, Quels sont les arguments de ceux qui s'élèvent encore aujourd'hui contre le Nutri-Score en dépit des preuves scientifiques robustes de l'utilité de cet étiquetage nutritionnel ?
Alors curieusement, on retrouve toujours les mêmes arguments qui datent d'ailleurs de l'époque où le Nutri-Score a été proposé en 2014 par les scientifiques et adopté en 2017. Alors au début, il n'y avait aucune entreprise qui n'en voulait. Maintenant, il y a à peu près 60% du marché alimentaire qui est couvert par Nutri-Score. Il y a encore des grands opposants, hein, Coca-Cola, Ferrero, Lactalis, Mars, Mondelez ou Unilever qui s'y opposent, Danone qui se retire ou... Bjorg, qui le substitue par un autre logo qui n'a strictement rien
et
à voir.
Qui induit en erreur, hein, petite parenthèse, le Planet Score. Un jour, j'ai voulu acheter un biscuit de la marque Bjorg et je l'ai acheté parce qu'il était, il y avait un A vert qui apparaissait en gros. Et en fait, ce n'était pas le Nutri-Score, c'était le Planet Score.
Ouais,
donc, ça induit en erreur le consommateur.
Oui, Ali, pour l'anecdote, quand vous m'avez dit ça, parce que c'est vous qui me l'avez fait remarquer, et j'ai averti mes patients et énormément de patients s'étaient fait avoir. Alors, moi, j'ai envie de dire juste. Si vous voulez peu utiliser Nutri-Score, bah, c'est votre choix, on est libre ici. Mais attention juste à ne pas se tromper, c'est les mêmes couleurs, ouais. c'est les mêmes lettres. Et donc, c'est vrai qu'on peut se tromper. Donc, au moins, nous, ce qu'on veut, c'est que vous sachiez à quoi vous vous référez. Donc, vous utilisez ce que vous voulez, mais ne confondez pas les deux. Hein.
Je vous laisse poursuivre, professeur Rigbert.
Donc, parmi les arguments, on retrouve des questions qui sont parfois pertinentes, pour lesquelles il y a des réponses scientifiques, mais qui sont instrumentalisées. Alors, l'ultra-transformation n'est pas intégrée. Oui, on explique pourquoi, parce que ça n'est pas possible. Ou ça ne prend pas en considération la taille des portions. Oui, parce qu'on essaye de comparer les choses qui sont comparables. 100 grammes d'un aliment à 100 grammes d'un autre aliment. Ou des fake news sur le fait que Nutri-Score s'opposerait à l'aliment méditerranéen, et notamment aux aliments traditionnels. Et il y a tout un discours qui est tenu pour faire croire que Nutri-Score s'oppose aux traditions, à la gastronomie, au terroir.
Et parmi ces fausses informations relayées par certains lobbies contre le Nutri-Score serait simpliste et réducteur, le Nutri-Score serait stigmatisant pour certains aliments et anxiogène pour les consommateurs, le Nutri-Score pénaliserait les aliments traditionnels comme les AOP, IGP, etc. etc. Bon...
C'est complètement faux. Tant les attaques sur le côté culpabilisant ou stigmatisant du Nutri-Score que sur le fait que ça toucherait de façon particulière les AOP et les IGP. Les deux tiers des AOP et IGP, des aliments traditionnels, sont bien classés par le Nutri-Score. C'est juste les fromages et les charcuteries sont mal classés, ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas en consommer, mais de façon raisonnable.
Et puis certains politiques n'ont pas toujours été les meilleurs avocats du Nutri-Score. L'actuel ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, avait bloqué la publication de l'arrêté qui devait permettre l'entrée en vigueur du nouveau Nutri-Score. Elle lui reprochait de donner une mauvaise note aux produits « remarquables » entre guillemets du terroir, comme les fromages ou les charcuteries.
Oui, c'est une confusion qui est souvent faite par ceux qui veulent discréditer Nutri-Score entre la qualité gastronomique et la qualité nutritionnelle. Ce sont deux dimensions différentes, elles peuvent se recouvrir, mais elles ne sont pas de même nature.
Pierre Slamiche.
Il faut voir qu'il y a beaucoup d'argent en jeu. En fait, les lobbies sont à l'Assemblée en permanence. Ils ont de l'argent pour faire du lobbying et pour faire appuyer une pression continue sur les députés en leur faisant du chantage aux emplois, etc.
Un mot de conclusion ?
Oui, tout à fait. Alors, heureusement, il y a la pression sociétale parce qu'il y a une demande forte des consommateurs. 94% des consommateurs souhaiteraient qu'il soit obligatoire. Il y a un support fort de la communauté scientifique. Il y a des médias qui permettent de fournir une information de bonne qualité qui contredisent les fake news des lobbies. Et puis, il y a quand même des entreprises qui, aujourd'hui, sous cette pression sociétale, jouent le jeu.
Merci beaucoup, Serge Arkberg. Je rappelle le titre de votre livre, « Mange et tais-toi » chez Humaine Science. Merci, docteur Jacques Fricker. « Manger intelligent, éloge de l'omnivore », c'est chez Odile Jacob. Merci, Boris Ancel. Et merci, Pierre Slamiche, d'Open Food Fact.
Grand bien vous fasse, un podcast France Inter.